Remis jusqu'à 4000 euros sur Juke Hybrid, 5000 euros sur Cash Cay et 7000 euros sur X-Trail 9. Identifié en stock jusqu'au 30 juin par rapport au prix au 1er mars. Détail Nissan.fr. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.
Merci d'avoir choisi Europe 1 pour vous informer en ce 15 juin. Bienvenue à tous, il est 9h.
Europe 1.
6h, 9h.
Lénaïque Monnier.
L'heure de faire un nouveau point complet sur toute l'actualité avec Alexis de la Fléchère. Bonjour Alexis.
Bonjour Lénaïque, bonjour à tous. Au moins 13 personnes, dont plusieurs enfants décédés, 130 autres blessés en Israël après de nouveaux tirs de missiles iraniens. Bilan revu à la hausse à l'instant. L'État hébreu de son côté continue de viser sans relâche les sites stratégiques de Téhéran, des dépôts de carburant touchés. Le ministère de la Défense iranien légèrement endommagé également. Et cette opération israélienne en Iran ne s'arrêtera que quand la menace atomique cessera. Les mots ce matin du porte-parole de l'armée israélienne. Olivier Rafovitch estime que l'Iran était presque en mesure de produire 10 bombes atomiques, ce que Téhéran dément. Donald Trump lui prévient, si l'Iran attaque les États-Unis alors que Washington n'a rien à voir avec les frappes israéliennes en cours, alors l'armée américaine répliquera avec toute sa force.
Un conflit d'une rare violence entre Israël et l'Iran, et pourtant il fut un temps où les deux pays étaient les plus grands des alliés.
Une page d'histoire souvent oubliée et qui subsiste pourtant encore aujourd'hui dans le pays, comme l'a rappelé ce matin sur Europe 1 Emmanuel Razavi, grand reporter franco-iranien, spécialiste du Moyen-Orient.
La population iranienne veut des relations apaisées avec Israël. Il y a une affection particulière entre les Iraniens en fait et les Juifs en général. Donc c'est vrai que Israël aujourd'hui peut compter sur un capital, si vous voulez, sympathie à l'intérieur de l'Iran. Mais après, il faut quand même qu'il y ait les conditions. Si le régime venait à chuter, il faut bien qu'il y ait une continuité de l'État qui soit assurée d'une façon ou d'une autre. Il faut bien que les oppositions iraniennes arrivent à se mettre autour de la table et à travailler ensemble. Mais pour le moment, on ne sait pas encore réellement ce qui va se passer, comme je vous le disais, parce que ça dépend aussi de la Maison-Blanche, de Donald Trump, qui a quand même des avis qui sont pour le moins changeants.
Emmanuel Razavi, grand reporter franco-iranien, invité donc ce matin d'Europe 1 Matin Week-end.
Aux États-Unis, à présent, Alexis, la grande parade militaire pour les 250 ans de l'armée américaine a eu lieu cette nuit.
Oui, 7000 soldats, 150 véhicules militaires, une cinquantaine d'avions et des chevaux, défilé grandiose, dénoncé par certains vétérans qui estiment que c'est de l'argent gâché.
Une parade qui s'est déroulée dans une atmosphère très lourde, puisqu'hier, une élue démocrate a été assassinée.
Et oui, tuée avec son mari par balle à son domicile. Un sénateur démocrate a aussi été blessé. Le gouverneur du Minnesota dénonce un acte de violence politique et des centaines de policiers sont à la recherche du meurtrier, un homme blanc de 57 ans considéré comme armé et dangereux.
Et pendant ce temps, le président français lui est attendu au Groenland.
Il, sous tutelle danoise, mais convoité, menacé d'annexion depuis des mois par le président américain. Position dénoncée par le président français.
On conclut avec du sport et cette toute nouvelle compétition souhaitée par la FIFA. On parle de la Coupe du Monde des clubs.
Oui, une de trop, certains diront, mais il y a 32 équipes qualifiées, des équipes européennes mais aussi brésilienne, japonaise, coréenne et un seul club français, Paris, qui affronte ce soir 21h en Californie l'Atlético de Madrid. Et puis d'un mot, le rugby, Toulon rejoint l'UBB en finale de top 14 après sa victoire écrasante hier face à Castres, le score 52-23.
Merci Alexis de la Fléchère. Anthony, il fait gris et humide ce matin, voilà comment on peut résumer la situation.
Oui, on a beaucoup d'averses qui circulent sur cet axe sud-ouest-nord-est, mais aussi près de la Méditerranée, ce qui n'était pas forcément prévu. Ces averses vont vite disparaître dans le quart sud-est, d'ailleurs en Corse, sur la Côte d'Azur, vous avez déjà beaucoup de soleil. Soleil qui revient aussi sur la Bretagne, près des côtes de la Manche et vers Pays de la Loire. Puis on a des orages aussi dans le sud-ouest, vers les Pyrénées, le Massif central et sur le Grand Est. Cet après-midi, toujours à risque d'orage, cette fois-ci sur la Bourgogne-Franche-Comté, le Grand Est encore, et aussi sur l'Auvergne-Rhône-Alpes. Ailleurs, ça va se calmer, ça restera gris dans le quart sud-ouest, et puis les éclaircies vont gagner du terrain vers l'Île-de-France et vers Poitou-Charentes. Les températures en baissent partout, sauf dans le sud-est où vous aurez encore plus de 30 degrés, mais plus que 26 à Strasbourg, 24 à Lille, 23 à Paris et Toulouse, 21 à Biarritz et 18 à Cherbourg.
Merci Anthony et merci à tous d'avoir suivi Europe 1 Matin Week-end et à toute l'équipe qui m'a aidé à préparer ce rendez-vous d'information. La suite de votre matinée, c'est Frédéric Tadéhi, c'est arrivé demain. Bonne matinée à tous sur Europe 1.
Europe 1. On peut penser qu'un influenceur va nous aider à choisir notre voiture. Ou on peut décider de faire confiance à plus de 800 000 conducteurs de Dacia Sandero. Dacia Sandero, la voiture la plus vendue aux particuliers depuis 9 ans en France, est à découvrir à partir de 99 euros par mois pendant les portes ouvertes du 12 au 16 juin.
Offre réservée aux particuliers, valable du 12 au 16 juin pour Sandero Essentiel SE, 65,9 euros option. Premier loyer, 1 700 euros, LLD 49 mois, 50 000 km, si accordiaque. Conditions sur Dacia.fr, source 3A data janvier 2025. Au quotidien, prenez les transports en commun.
Quand votre déodorant à l'agonie vous dit dans un dernier soupir «
Je fais de mon mieux, mais je suis vraiment sur la faim. »
Pas de panique, votre nouveau déodorant est déjà en route. Il arrive demain avec Prime. Produit du quotidien, livré en un clin d'œil, c'est sur Prime. Sous réserve du respect des heures limites de commande.
Rouler en électrique ou hybride ? Ok. Avec la qualité allemande ? Évidemment. Et sans dépasser son budget ? Toujours. Avec Opel, vous cochez toutes les cases. Pendant les portes ouvertes, Opel vous offre jusqu'à 8000 euros d'avantages clients sur une sélection de véhicules disponibles immédiatement. Alors n'attendez plus, rendez-vous chez votre concessionnaire Opel. 8000 euros se composant d'une remise sur le prix d'une Opel Astra hybride rechargeable neuve et d'une prime reprise. Offre à particulier sur véhicules en stock jusqu'au 24 juin dans le réseau participant. Détails sur opel.fr. Pensez à covoiturer.
Recruter une personne de plus de 50 ans ? Jamais de la vie.
Ah, moi, c'est la meilleure décision que j'ai prise. J'ai recruté Sophie, 55 ans, pour être vendeuse dans mon magasin. Grâce à son expérience, elle donne des conseils très pertinents et elle sait s'adapter aux besoins des clients.
Comptons sur l'expérience des 50 ans et plus. Recrutement, formation, accompagnement. Rendez-vous sur emploi50plus.gouv.fr.
Ceci est un message du gouvernement. Mercedes-Benz.
Il vous faut quoi pour passer à l'électrique ? Une grande autonomie ? Un SUV compact ou un SUV 7 places ? Un loyer attractif ? Et pourquoi pas une Mercedes ? Jusqu'au 30 juin pendant les Star Days, profitez de l'EQA et de l'EQB 100% électrique avec le pack AMG Line des 399 euros par mois.
Location longue durée 37 mois, 45 000 km. Premier loyer de 399 euros, bonus écologique de 2000 euros déduits si acceptation par Mercedes-Benz Financement. Détails sur mercedes-benz.fr. Star Days, journée étoilée. Au quotidien, prenez les transports en commun.
9h, 10h, c'est arrivé demain. Frédéric Taddeï.
Bonjour, bon dimanche. Le 27 juillet prochain, ce sera le 40e anniversaire de la mort de Michel Audiard, le plus célèbre dialoguiste du cinéma français. Je reçois donc Philippe Durand qui lui a consacré une biographie détaillée. On va voir avec lui de quel bois se chauffait l'auteur de tant de répliques cultes. Et puis le musée Cantini à Marseille organise tout l'été une grande exposition de l'œuvre du sculpteur le plus cher du monde, Alberto Giacometti. Il est mort en 1966, mais Franck Maubert publie son Giacometti chez Fayard. Il va nous le raconter. Bonjour Philippe Durand.
Bonjour.
Vous êtes journaliste de cinéma et la biographie que vous avez consacrée à Michel Audiard est rééditée chez Nouveau Monde. Michel Audiard est aujourd'hui l'objet d'un véritable culte hein, en tant qu'auteur. Même le président de la République fait des citations d'Audiard. On le qualifie généralement d'anarchiste de droite, Michel Audiard. Est-ce que vous êtes d'accord ?
Alors là, j'avoue qu'on rentre dans des méandres de la politique et j'ai déjà du mal à définir ce qu'est un anarchiste et en plus un anarchiste de droite. Alors là, je suis complètement paumé. Disons que c'était un monsieur qui osait dire ce qu'il pense et quelquefois ça pouvait gêner certains. Voilà. Maintenant, personnellement, j'aime pas trop les qualificatifs et les rangements dans des cases. Si c'était la case de grand talent de Michel Audiard, grand dialoguiste, comme vous l'avez dit. Donc voilà, sur le côté politique, je peux pas trop vous aider.
Au départ, il voulait devenir coureur cycliste. Il a fait de la compétition en amateur, hein, tout en étant livreur de journaux. Est-ce qu'il avait ses chances dans le cyclisme ?
Non, il s'en est rendu compte très vite parce qu'il, comme disait André Pousse, son ami, il n'arrivait pas à monter les côtes. Donc sur terrain plat, ça allait, mais vous savez, le cyclisme, c'est rarement sur terrain plat, surtout si vous faites le Tour de France. Et donc il s'est très, très rapidement rendu compte de ses limites et il a renoncé au vélo.
Et André Pousse, hein, qui lui était un vrai coureur cycliste, qui est devenu son ami oui. et qui est devenu acteur par Michel Audiard.
Exactement, oui. André Pousse, c'était vraiment une amitié qui remonte à loin, parce que ça remonte à ce qu'on appelle le Veldiv, là où se faisaient les grandes courses de vélo, et là où Michel Audiard a rencontré André Pousse. Et là, coïncidence aussi, c'est dans ce même Veldiv que Alain Delon a également rencontré André Pousse.
Il a eu des ennuis à la Libération, Michel Audiard, il avait 24 ans. De quoi était-il coupable ?
Des ennuis, oui et non, ça dépend ce qu'on appelle ennui. Enfin, en tout cas, on lui a reproché, et on aurait pu, et on l'a fait d'ailleurs reprocher à beaucoup de journalistes, d'avoir continué à travailler. Et forcément, si vous travaillez pendant la guerre, vous aviez deux solutions. Soit vous travaillez en catimini pour la résistance, pour les journaux de la résistance, je veux dire. Soit vous travaillez ouvertement pour des journaux qui sont forcément considérés comme des journaux collaborationnistes. Et ce qui a été le cas, effectivement, de Michel Audiard, qui a traîné sa plume dans des différents journaux, alors qu'il s'intéressait surtout En fait, il a écrit des nouvelles et ensuite il s'est intéressé au théâtre et au cinéma. Il n'a, à mon avis, jamais été vraiment polémiste dans ce domaine-là.
C'est en 1949, à 28 ans, qu'il travaille sur son premier film, Mission à Tanger, réalisé par André Hunebelle, un film qui n'est pas resté dans l'histoire, sauf qu'il y a pour la première fois écrit au générique scénario et dialogue. Michel Audiard, comment est-il arrivé là ?
Alors c'est une succession de coïncidences, de rencontres. Il s'intéresse donc en tant que journaliste au théâtre. Ensuite, il bifurque vers le cinéma. Il rencontre beaucoup de gens. Il écrit beaucoup. Et tout d'un coup, quelqu'un lui dit André Hunebelle est un peu à court d'idées parce que son auteur favori, qui était le fils d'André Hunebelle, était malade. Il lui fallait remplacer quelqu'un immédiatement. Et Michel Audiard développe tout à coup un talent pour écrire bien et vite, ce qui a sidéré totalement André Hunebelle en disant « Mais à quelle vitesse vous avez fait ça ?» Et du coup, il lui a commandé le scénario de son premier film. Et c'est comme ça que tout a démarré.
Et c'est vrai que c'est quelque chose dont tout le monde vous parle quand vous enquêtez sur Michel Audiard, c'est de sa rapidité d'écriture. Aussi bien quand il était journaliste que quand il est devenu dialoguiste et scénariste, il est très rapide. Et même pour ses meilleurs films, il peut être très très rapide. Il ne bâcle pas.
Oui, tout à fait. Il a toujours été rapide, mais en fait, ce qu'on appelle rapidité, ce qui nous semble de la rapidité, c'est en fait tout ce qu'il a déjà dans la tête. C'est-à-dire qu'il n'a pas puisé déjà dans les bibliothèques ou dans les livres, puisqu'il les a déjà en lui. Donc il suffit qu'il aille fouiller en lui le mélange d'argot, le mélange de textes qu'il a lu, parce qu'il en a lu énormément des livres, ce qu'il a entendu et tout ça. Il fait sa petite sauce et ça va effectivement assez vite. Mais ça ne peut aller vite que quand on a déjà tout le bagage antérieur.
Mais néanmoins, vous insistez bien sur le fait qu'il fait des recherches aussi. Quand il va écrire Les Grandes Familles, par exemple, dans lequel Jean Gabin joue un grand patron, il se documente. C'est pas trop son terrain habituel. Il n'hésite pas à aller poser des questions, à se renseigner.
Oui, dès qu'il sort, j'allais dire, de son précaré, il faut qu'il découvre un peu comment c'est. Alors effectivement, les banquiers, il les connaissait, mais pas forcément dans le bon sens du terme. Et tout d'un coup, il a voulu en savoir plus, et parce qu'il était toujours attaché au bon langage par rapport à la personne. La personne, c'est non pas l'acteur, mais le personnage qui va être à l'écran. Et il ne pouvait pas faire dire à un banquier ce qu'il faisait dire à des truands dans des films précédents. Donc il était toujours à la recherche de cette espèce de perfection, et quand il ne la trouvait pas en lui autour de lui, il fallait qu'il aille la chercher. Comment parlent ces gens, qu'est-ce qu'ils se disent entre eux, quels sont leurs soucis, quelles sont leurs façons de parler. Et comme il avait une oreille très aiguë, il enregistrait tout ça dans sa tête et après, il écrivait ses textes.
Donc à partir de Mission à Tanger en 1949, pendant 7 ans, Michel Audiard joue les mercenaires sur des films populaires, mais sans intérêt. Si on a la patience de les regarder aujourd'hui, on n'y soupçonnerait jamais la patte d'Audiard. Pas une once d'originalité, pas un seul mot d'auteur. Il faut le dire qu'ils sont réalisés par de médiocres metteurs en scène et interprétés par des acteurs convenables, mais sans grande personnalité. Il attendait son heure, en fait.
Il attendait son heure, en fait. Bon, lui, il travaillait parce qu'il avait, comme il disait, j'ai beaucoup travaillé parce que j'avais beaucoup besoin d'argent. Donc, il acceptait un peu tout. Et dans le tout, il y a souvent du n'importe quoi. Il y a quand même, dans son début de carrière, un film que je trouve assez magnifique et qu'on a totalement oublié. C'est le film qu'il a fait avec Louis Jouvet. Il a donné un dialogue à Louis Jouvet qui ressemblait d'ailleurs un peu au dialogue d'Henri Janson, parce qu'Henri Janson était le fournisseur exclusif de Louis Jouvet en ce qui concerne les dialogues, et Michel Audiard a bien pris la succession, et on aurait pu à ce moment-là avoir un nouvel Michel Audiard, c'est-à-dire des nouveaux films Audiard-Jouvet. Malheureusement, Jouvet est mort à la fin de ce film, et donc il n'a pas pu travailler avec lui, mais là on commence déjà à sentir qu'il y a un auteur derrière, c'est pas seulement un amuseur, c'est pas seulement quelqu'un qui faisait rapidement des belles phrases, il y avait une réflexion et un auteur, et ça s'est développé bien sûr par la suite.
Ça va se développer surtout à partir de sa rencontre avec Jean Gabin sur un film intitulé Gasoil. Là, tout va changer. On fait une pause, Philippe Durand. On se retrouve tout de suite après.
Bonjour, c'est Dimitri Pavlenko.
7h-9h, Europe 1 matin.
Écoutez, Europe 1, c'est être libre. libre de s'informer. Cet entrisme qui pourrait faire basculer toute la société française dans la charia.
Nous sommes la patrie de l'esprit critique, des lumières et des droits de l'homme. Donc nous sommes en première ligne et c'est pour ça que nous sommes attaqués.
Cet entrisme instrumentalise beaucoup de nos compatriotes de confession musulmane en leur disant vous êtes des victimes.
Nous ne répondrons pas aux défis que nous lancent les frères musulmans par un nihilisme d'État.
Europe 1, la radio libre.
Europe 1 matin, Dimitri Pavlenko.
À demain matin, 7h-9h sur Europe 1.
La 6e édition du prix littéraire Europe 1 GMF a récompensé Le Lit Clos de Sophie Broca. Un livre parfaitement en phase avec les valeurs humanistes défendues par le prix.
L'écoute, l'attention, la bienveillance, la solidarité. Je pense que c'est ce qui met en lumière la plus belle part de notre humanité. C'est des valeurs qu'il faut qu'on cultive. Je suis du coup encore plus honorée que ce soit ces valeurs-là qui soient exaltées dans ce prix.
Le Lit Clos de Sophie Broca, lauréate 2025 du prix littéraire Europe 1 GMF. Disponible dès maintenant en librairie. Dans les années 60, la France construisait un avenir plus ouvert. Révolution musicale, conquête spatiale, émancipation des femmes. En 2025, Renault remet la liberté sur la route avec nouvelle Renault 4. Design emblématique, habitabilité légendaire, désormais 100% électrique et ultra connecté. Découvrez Renault 4 E-Tech électrique, borne de recharge offerte. Portes ouvertes du 12 au 16 juin. Valeur borne 990€ hors taxe, hors installation pour forfait borne plus installation. Offre à particulier du 1er au 30 juin. Conditions Renault.fr. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.
Leclerc, bonjour.
Bonjour. Mon dictionnaire me dit concombre, légume apprécié pour sa fraîcheur.
Oui.
En fait, c'est concombre français. Légumes appréciés pour sa fraîcheur.
Et pour son prix, car du 13 au 15 juin, les concombres français sont à 1,35€ les deux. Et chaque semaine, profitez en plus de 10% de tickets Leclerc sur tous les fruits et légumes à activer dans votre appli Mon Leclerc. Chez Leclerc, le goût du frais, ça se défend tous les jours. Soit 68 centimes la pièce du lot indivisible, catégorie 1, calibre 300-400 grammes, modalité magasin et drive participant sur www.e.leclerc.
Les passagers destination hybride sont priés de se rendre dans leur concession Suzuki la plus proche pour profiter des 5 modèles et 3 technologies hybrides Suzuki à partir de 159€ par mois. Destination hybride, embarquement immédiat. Profitez des portes ouvertes ce week-end.
Prix pour Swift Hybrid Avantage, location longue durée 37 mois, 30 000 km, premier loyer de 4 000€. Entretien inclus, valable jusqu'au 30 juin 2020. Si accord Kofi-Kabaï. Détails sur Suzuki.fr.
Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.
9h, 10h, c'est arrivé demain.
Avec Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Nous sommes ce matin avec Philippe Durand, le biographe de Michel Audiard, dont on célébrera cet été le 40e anniversaire de la mort. On l'a dit juste avant la pause, une rencontre déterminante pour Michel Audiard, c'est celle de Jean Gabin pour écrire Gasoil en 1954. À partir de là, tout va changer pour lui. Mais Gabin vient de revenir au premier plan à ce moment-là avec Touchez pas au Grisby. C'est une star de 51 ans qui n'aime pas beaucoup travailler avec des petits nouveaux. Comment Audiard, qui a 16 ans de moins que lui, a-t-il réussi à s'imposer ?
Alors, il s'est imposé, par son talent, par sa plume, en lui fournissant donc un texte, parce qu'il y avait, on a parlé à Gabin de Michel Audiard. J'ai dit, bah oui, mais j'aimerais bien savoir qui c'est ce monsieur et qu'est-ce qu'il a dans le ventre, comme disait Jean Gabin. Et Audiard lui a écrit un texte en rapport avec Gasoil, dont il avait lu le livre, et tout de suite. Gabin, en lisant ce texte, a dit cette fameuse formule qu'on a répétée, c'est du BSA extrapiste, ce qui ne veut absolument rien dire aujourd'hui à quiconque, mais il faut se souvenir que le BSA extrapiste, c'était le meilleur tuyau, enfin je sais pas comment on appelle ça, sur les vélos, le meilleur vélo, etc. Et donc, pour lui, c'était l'excellence de l'excellence. Et il s'est dit, ce petit bonhomme, je vais quand même essayer de travailler avec lui, et il a vu que ce qui était extraordinaire avec Michel Audiard, c'est qu'il savait faire parler les gens tels qu'ils parlaient eux-mêmes. C'est-à-dire qu'il a fait parler Gabin avec la voix de Gabin, avec les intonations de Gabin, avec les mots de Gabin. Et ça, Gabin lui-même a été étonné. Et surtout qu'il a valorisé, bien sûr, ce langage. Et c'est comme ça qu'est né ce duo qui a vraiment marqué, il faut s'en souvenir, marqué le cinéma français. C'est-à-dire que c'était le duo number one du cinéma français pendant des années.
Ils feront 17 films ensemble en tout. Hein, et dès Gasoil, Jean Gabin va l'imposer sur tous ses films, et c'est en travaillant pour Gabin que Michel Audiard devient l'auteur que l'on célèbre aujourd'hui. Est-ce qu'ils avaient un contrat entre eux ?
Oui. Oui, oui, c'est-à-dire que Gabin a très rapidement mis un contrat, pas un contrat de gangster, mais un contrat d'acteur, en disant « je veux que mes prochains films soient tous écrits, les dialogues au moins écrits par Michel Audiard, et j'exige certains metteurs en scène, dont l'un était l'un des plus grands metteurs en scène du cinéma français, Henri Verneuil. Et donc il avait sur contrat certains noms, il y avait également le nom des techniciens avec qui il voulait travailler, etc. Et ça, c'est des contrats qu'il établissait en général pour 3 ou 6 films avec des maisons de production, en disant voilà comment ça va se passer, vous me trouvez des sujets, mais ça sera Audiard qui l'écrira, ça sera peut-être Verneuil qui le réalisera, et voilà comment il y a bien travaillé.
Et Audiard, par ailleurs, continue d'écrire des films pour d'autres. Est-ce que Gabin voyait ça d'un bon œil ?
Non, il le voyait d'un très mauvais œil. Il a pas du tout accepté que Michel Audiard fasse un Taxi pour Tobrouk, c'est-à-dire qu'il fasse l'un des plus gros succès du cinéma à ce moment-là, avec son ami Lino Ventura, avec Charles Aznavour, avec Maurice Birault. Et là, pour Gabin, il y avait une forme de trahison, en disant, mais comment t'as osé donner un film d'aussi bonne qualité à Lino, même s'ils adorent Lino, alors que c'est lui le number one, Jean Gabin. Et non, il y a eu un clash, en fait, et le clash était arrivé à Mélodie en sous-sol, où là, Gabin qui revendique, je ne veux plus travailler avec Michel Audiard.
On en reparlera effectivement de ce clash sur Mélodie en sous-sol, mais d'abord, Audiard, c'est aussi une pensée, une vision du monde, dont Jean Gabin devient le véhicule principal à partir de ce moment-là. Quand on entend Gabin dans les films aujourd'hui, on entend Michel Audiard qui pense.
On entend Michel Audiard, mais on entend aussi Jean Gabin, c'est-à-dire qu'il n'aurait pas pu faire dire à Jean Gabin des choses que Gabin n'aimait pas ou n'était pas en lui. C'est-à-dire qu'il a extrait, si vous voulez, de la personnalité de Jean Gabin, ce qui n'arrivait pas, parce qu'il n'arrivait pas à dire, mais ce qu'il ne disait peut-être pas aussi clairement auparavant. Et donc c'est ça, cette communion. Alors, la communion se fait parce qu'ils avaient les mêmes pensées sur le monde, ils avaient le même regard sur le monde, sur les gens, le même dédain, ils avaient vécu aussi, bien sûr, la guerre, etc., de manière totalement différente d'ailleurs, mais c'est ça aussi la force d'Audiard, c'est de faire dire au personnage, à l'acteur, ce qu'il a en lui. Il a eu du mal quand il devait faire dire à des acteurs le contraire de ce qu'il pensait, ça n'y arrivait pas.
À partir de 1958, ils font vraiment des étincelles. Hein. Maigret tend un piège, Le désordre et la nuit, Les grandes familles, Archimède le clochard, Rue des Prairies, Le baron de l'Écluse, Le président, Le cave se rebiffe, un singe en hiver, Le gentleman d'Epsom. Que des bons films qu'on peut revoir sans problème 60 ans plus tard.
Oui, ce sont des films d'abord très bien écrits. Enfin, c'est pas forcément Audiard qui a fait le scénario, mais enfin, avec des dialogues magnifiques, avec des acteurs excellents. Je veux dire, si on reprend dans tout le lot que vous avez dit, Un singe en hiver est un des films, à mon avis, majeurs du cinéma français, parce qu'il véhicule beaucoup de choses, parce que d'abord en plus il nous rappelle ce qu'était la France à certaines époques, et puis ça va loin en fait, et puis ses phrases sont magnifiques. Déjà le sujet à la base est évidemment magnifique, tiré du roman, et ce sont des films très fort, et le public français attendait ça, c'est-à-dire ils attendaient le prochain Gabin Audiard. C'était pas seulement le prochain Gabin, c'était le prochain Gabin Audiard. Et on s'y précipitait parce qu'on allait entendre des phrases magnifiques, on allait voir des acteurs exceptionnels, et si en plus on avait un bon sujet, et c'est le cas d'Un singe en hiver, là, je veux dire, c'était colossal, quoi, l'émotion de la part des spectateurs.
Ils se fâchent donc au moment de Mélodie en sous-sol, qui est pourtant leur meilleur film, à mon avis. Qu'est-ce qui s'est passé, à part le succès d'Un taxi pour Tobrouk, qui était resté en travers de la gorge de Jean Gabin?
Bah, en fait, il y avait déjà Un taxi pour Tobrouk, et il y a surtout que dans, je sais pas si vous venez de Mélodie en sous-sol, donc il y a tout ce moment où Alain Delon fait le casse, et donc il va dans les tuyauteries au-dessus du casino, et il rampe comme ça, etc., et pour aller arriver jusqu'au coffre. Enfin, tout ça est assez compliqué. Mais ça, si vous voulez, sur un scénario, ça fait 3 lignes. C'est marqué Alain Delon va aller au-dessus du casino, etc. Mais à l'écran, ces 3 lignes, ça fait 20 minutes. Et pendant ces 20 minutes, on ne voit plus Jean Gabin. Et Jean Gabin s'en est rendu compte assez rapidement, en disant, attendez, mais moi, je fais plus rien dans ce truc-là, c'est Alain Delon qui fait le cas, c'est pas moi, à quoi je sers? Et donc là, il y a eu fâcherie, parce que c'était, quand on faisait un film avec et sur Jean Gabin, c'était forcément lui qu'on devait voir au maximum. Et si vous regardez bien Mélodie en sous-sol, qui avait évidemment des répliques magnifiques, etc., si on chronomètre, c'est Delon qui gagne.
Ah oui, c'est lui le vrai héros du film.
Voilà, c'est lui qui fait le casse. C'est pas Gabin. Gabin arrive à la fin. Il arrive et en plus on sait pas d'où il vient, parce que d'un coup il arrive d'un escalier, d'une porte qui n'est pas censée exister. Mais bon, il fallait bien le faire rentrer à un moment ou à un autre. On n'allait pas le faire courir au-dessus du casino. Et donc il y a eu effectivement un clash en disant là, les enfants, vous êtes foutus de moi, et Michel Audiard, tu m'as pas prévenu.
Ils vont rester 5 ans fâchés, enfin 5 ans sans travailler ensemble. On fait encore une pause, Philippe Durand, et on se retrouve juste après. Et n'oubliez pas que Dis-moi ce que tu chantes, c'est de 17h à 18h chaque dimanche sur Europe 1. Une personnalité confie à Didier Barbelivien les 5 chansons qui ont marqué sa vie. Un entretien en musique où l'invité se dévoile sous un nouveau jour. Ce dimanche, Didier Barbelivien reçoit Maud Fontenoy pour son nouveau livre « L'océan, source de vie » aux éditions de l'Observatoire.
Europe 1,
9h, 10h, c'est arrivé demain.
Avant, la Révolution française, c'était ça. Mais maintenant, c'est ça. Bien plus confortable, non ? Citroën C3, avec ses sièges et ses suspensions Advance Comfort. À partir de 15 750 euros pendant les portes ouvertes du 13 au 16 juin. Disponible également en version électrique et hybride.
Citroën.
Tarif conseillé à particulier jusqu'au 30 juin pour l'achat d'une Citroën C3 U9 hors option. Détails sur citroën.fr selon réseau participant. Au quotidien, prenez les transports en commun.
Carrefour. Quand vous me dites « L'Aleph est une bière d'abbaye authentique et pleine de caractère, blonde, rubis, brune, ambrée », je pourrais en parler pendant des heures. Eh bien, je vous réponds qu'il y a 50% de remise immédiate sur le deuxième produit L'Aleph acheté. Et c'est valable sur tout L'Aleph. Alors rendez-vous jusqu'au 22 juin chez Carrefour, Carrefour Market et leur drive. Carrefour. Selon disponibilité en magasin, panachage possible, la remise s'applique sur le moins cher. Détails sur carrefour.fr. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool.
16 millions, c'est l'équivalent de la population de Paris, Bordeaux et Lyon réunis. C'est aussi le nombre de personnes dans le monde qui ont choisi Renault Clio depuis 1990. Et ce nombre continue d'augmenter, puisque Clio est la voiture la plus vendue en France en 2024. Renault Clio Génération est en édition limitée dès 16 900 euros. Portes ouvertes du 12 au 16 juin.
Source Renault, immatriculation mondiale de 1990 à 2024. Source 3 Adata, janvier 2025. Clio Génération SCE, 65 hors option. Offre à particulier du 1er au 30 juin selon stock disponible. Voir Renault.fr. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.
Lidl, réélu encore et encore, meilleure chaîne de magasins de l'année dans la catégorie fruits et légumes.
Vous avez un nouveau message.
Allô patron, ils nous ont encore pris de court chez Lidl. En ce moment, le kilo de courgettes est à 1,39€ et même à 97 centimes avec Lidl Plus. On peut dire qu'elles en jettent, ces courgettes. Et pour nous, c'est ratatouille.
97 centimes le kilo de courgettes chez Lidl avec Lidl Plus. Là, je suis vert. On est mal.
Lidl est vraiment le moins cher et vous le prouve sur lidlestmoinschers.fr. Catégorie 1, origine France. Offre valable jusqu'au 18 juin. Plus d'informations sur lidl.fr.
Peugeot. Pour tous les amoureux et les passionnés de l'automobile, les 24 heures du Mans, c'est bien sûr 24 heures de course. Mais c'est surtout 24 heures d'émotion. Et chez Peugeot, on vous en offre 24 fois plus. Jusqu'au 24 juin, ce sont les 24 jours chrono avec des offres exceptionnelles sur toute la gamme Peugeot. Jusqu'à 5000 euros d'avantages clients et 8 ans de garantie offerte. Portes ouvertes du 12 au 16 juin.
Offre valable pour toute commande d'une Peugeot neuve réservée aux particuliers. Garantie Peugeot Care, conditions sur Peugeot.fr. Au quotidien, prenez les transports en commun.
9h, 10h, c'est arrivé demain.
Frédéric Tadéhi sur Europe 1.
Nous sommes avec Philippe Durand qui publie une biographie de Michel Audiard chez Nouveau Monde à l'occasion du 40e anniversaire de la mort du plus célèbre dialoguiste du cinéma français. Vous venez de nous raconter pourquoi il s'est fâché avec Michel Audiard sur le tournage de Mélodie en sous-sol. Ça lui a tout de même permis à Michel Audiard de rencontrer un autre complice avec qui il va faire 14 films. C'est le réalisateur Georges Lautner. En effet, en 1960, ils font Les Tontons Flingueurs, qui n'est pas du tout un film conventionnel, comme reprochait quelqu'un comme François Truffaut à Audiard et à Gabin de faire. Il disait c'est des films conventionnels. Là, Les Tontons Flingueurs, c'est une comédie très noire, comme on n'en avait encore jamais vu, une parodie de films de gangsters. Hein.
Oui, tout à fait. C'est une parodie. Chacun joue son rôle et chacun avec les délires qu'on connaît. Et c'est vrai que bon, les jeunes cinéastes qu'on appelait la nouvelle vague ne supportaient pas ce genre d'humour qu'ils trouvaient facile, voire un peu vulgaire. Mais quels sont les films qui sont restés dans l'histoire du cinéma? Je crois que Les Tontons Flingueurs occupent une place à part. C'est une succession de talents et de coïncidences, de gens qui se sont rencontrés, de gabins qui refuse le rôle, déjà, tenu par Lino Ventura, ce qui change tout, du caractère de Lino sur le tournage, des délires de toute la petite bande menée par Blier, Francis Blanche. Tout ça fait un mélange. Derrière, on a le chef d'orchestre ou le cuisinier, comme vous voulez, Georges Lautner. Et la sauce prend. Comment, pourquoi, on ne sait pas. Parce qu'au moment de la sortie du film, il faut se souvenir que le film a été très très peu critiqué. Il y avait très peu de critiques, il y avait pas du tout de projection de presse, une publicité minimale, et les gens y vont. Ouais. Alors que ça n'est pas un Gabin Audiard, c'est un Ventura Audiard. Et les gens y vont, et encore aujourd'hui, les gens y vont. C'est-à-dire que ça, le succès n'a jamais, jamais diminué des Tontons Flingueurs. C'est un cas, peut-être pas unique, mais en tous les cas, rarissime dans l'histoire du cinéma français.
Oui, c'est un film doté d'un budget ridicule, hein, méprisé par la Gaumont qui l'a produit et par la critique à sa sortie, et qui va être le troisième plus grand succès de l'année et qui reste aujourd'hui dans toutes les mémoires grâce à ses multidiffusions à la télévision. Avec Jean Gabin, Michel Audiard avait exploré tous les milieux, hein, de la classe ouvrière à la grande bourgeoisie. À présent, il va vraiment se concentrer sur les voyous, les gangsters, les prostituées, les aventurières, les flics, les proxénètes, les paysans et un peu les hippies.
Oui, en fait, tout d'un coup, il a eu une porte ouverte grâce notamment au Tonton Flingueurs. C'est-à-dire que tout d'un coup, on lui a proposé de faire des films avec des voyous, mais des voyous pour rire, même s'il a fait plus tard des voyous beaucoup plus sérieux. Et lui, il était dans son domaine, là. Au moins, il n'avait pas allé chercher trop loin. Il avait qu'à, faire attention quand il allait dans les bistrots, dans certains bistrots. Il écoutait les personnages qui y traînaient. Il avait déjà des idées. Je dis bien des idées parce qu'il ne piquait pas des phrases. Il piquait des tons de phrases. C'est-à-dire des façons de parler, mais jamais il n'a recopié une phrase en disant ce qu'on appelle maintenant les brèves de comptoir. C'était pas du tout son style. Mais c'est vrai qu'il tout d'un coup il a découvert ça, et puis le succès aidant, on lui a tellement proposé de scénarios, mais ça venait vraiment de partout, qu'il a été dans tous les domaines. Mais c'est vrai que les producteurs avaient envie de refaire les Tontons Flingueurs bis avec d'autres acteurs, avec un sujet similaire et tout ça. Il en a refusé beaucoup, il en a accepté quelques-uns.
Dans les années 70-80, il écrit pour toutes les stars du cinéma français, hein, Michel Audiard, que ce soit Belmondo, Montand, Delon, Annie Girardot, Lino Ventura, Michel Serrault, Philippe Noiret, Jean Rochefort. Mais ces films ne sont plus aussi bons, même s'ils ont énormément de succès. Hein, ce sont des blockbusters français, mais sans grande originalité. Et beaucoup ont vieilli d'ailleurs, beaucoup plus que les films qu'il a fait dans les années 60, et notamment celui qu'il a réalisé, le premier qu'il a réalisé en 68, Faut pas prendre les enfants du bon Dieu pour des canards sauvages, qui était un film très moderne, presque expérimental. Hein. il s'est assagi, hein, dans les années 70-80.
C'est-à-dire qu'il s'est d'une part assagi, quoi qu'il a quand même fait quelques films assez mémorables avec Belmondo et même avec Delon, il s'est assagi, c'est-à-dire que bon, le cinéma évoluait, lui avait, comme beaucoup d'acteurs et comme beaucoup de gens qui avaient travaillé avant, avait peut-être un peu de mal à évoluer, mais il s'est quand même assez bien adapté. Là où effectivement ça a un peu péché, c'est les films qu'il a réalisés lui-même. C'est-à-dire que du coup, il était moins exigeant sur le scénario, puisque c'était lui-même qui l'écrivait, donc c'était beaucoup plus simple. Il n'y avait pas quelqu'un, un producteur ou un acteur derrière qui disait « Écoute, là, t'as été un peu léger, il faudrait peut-être me le recommencer, ce passage. » Donc, pour lui, c'était plus facile, et surtout, il s'est retrouvé derrière la caméra, dont il ne savait absolument pas quoi faire, et il le réalisait de loin. Ce qui l'intéressait, lui, pour en faisant des films, c'est pas de faire un film, c'est de faire un film avec ses copains. C'est-à-dire d'être sur le tournage, parce qu'il entendait toujours parler des tournages en disant « Qu'est-ce qu'ils ont rigolé, tes copains, Ventura, Blier, tout ça. » Oui, mais moi, j'étais pas sur le tournage, les gars. Et donc, il a dit, maintenant, je vais être sur le tournage puisque je vais réaliser. Et c'est comme ça qu'il est devenu réalisateur. Mais au fond, lui, il n'a jamais voulu être réalisateur.
Il a quand même, pour moi, réalisé un très 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 bon film. C'est Comment réussir quand on est con et pleurnichard, avec Jean Carmet, Jane Birkin, Jean Rochefort, Jean-Pierre Marielle, Evelyne Buil. Une comédie qui ne ressemble à aucune autre et qui a d'ailleurs eu le prix Courteline, hein, qui n'avait jamais été décerné à un réalisateur de cinéma. Mais il lui arrivera quand même de faire des chefs-d'œuvre aussi sans les réaliser. Je pense évidemment à Garde à vue ou à Mortelle randonnée qu'il a écrit avec son fils Jacques Audiard, avec Espion lève-toi, le film d'espionnage de d'Yves Boisset. Donc des films assez sombres. Or vous rappelez dans sa biographie que entre-temps il a perdu un autre fils, son fils aîné, en 1975, hein, et il n'a plus jamais été le même après.
Oui, ça l'a marqué terriblement. Donc son fils est mort dans un accident de voiture. Il était prévenu alors qu'il était en train d'écrire une comédie avec Philippe de Broca, mais à partir de ce moment-là, Michel Audiard, c'est-à-dire le vrai fond de Michel Audiard qu'on retrouve non pas dans ses écrits de scénariste, mais qu'on retrouve dans ses romans ou dans ses livres de souvenirs, parce que c'est toujours un petit peu un mélange, on se rend compte qu'au fond de lui-même, il y a une tristesse, il y a un poids lourd qui l'entraîne, que j'allais dire, quelque part. Et quand son fils est mort, là, c'est tout a explosé, et il est redevenu le cynique, le triste un peu, non pas triste cire, mais quelqu'un qui a un autre regard sur le monde. Quand vous perdez un enfant, rien n'est facile, et pour lui ça a été très marqué. Et c'est pour ça qu'on retrouve des films Garde à vue. Tout le dialogue de Garde à vue est magnifique, de la première ligne à la dernière ligne, et c'est tout du Audiard, c'est tout ce que pense Audiard par rapport à ces personnages qui sont marquants, et tout ce qu'il a envie de dire. Et tout d'un coup, Audiard va dire ce qu'il a au fond de lui-même, il va le dire à l'écran à travers d'autres acteurs, et ce qui va donner les grands films que vous venez de citer, tout à fait.
Et Mortelle randonnée, notamment, où c'est Michel Serrault là qui dit du Audiard. Il est mort donc en 1985, 10 ans après son fils, hein, d'un cancer, Michel Audiard. Qu'est-ce qui vous a le plus étonné sur lui en écrivant cette biographie, Philippe Durand ?
Moi, ce qui m'a toujours étonné, enfin, c'est la question que je m'étais posée très, très, très tôt quand je me suis intéressé à Audiard, c'est d'où vient son talent? Parce que ça paraît tellement facile, et Dieu sait si ça ne l'est pas, d'écrire du Audiard ou de faire du Audiard, et d'où vient son talent. Et je me suis rendu compte, et c'était assez évident, que son talent vient des innombrables lectures qu'il a fait, c'est-à-dire qu'il lisait tout, il connaissait tout Balzac, tout Victor Hugo, tout Zola, etc., et tout Dumas, bien sûr. Il connaissait également tous les polars qui sortaient. C'est quelqu'un qui a lu énormément. Et je pense que c'est ça qui fait aussi le poids de Michel Audiard. C'est qu'on ne peut pas s'improviser dialoguiste si on n'a pas en soi et derrière soi lu énormément, et dans des styles et dans des livres très très différents. Et c'est ça qui faisait sa force. Pour moi, c'est là que je trouve ça totalement admirable, parce qu'il faut se souvenir que Michel Audiard était un enfant de la rue qui n'était pas du tout amené à lire autant de livres et à devenir en fait un auteur, un écrivain, n'oublions jamais ça, et qu'il a transformé sa vie grâce à la lecture. Pour moi, c'est une belle leçon.
Merci Philippe Durand. Michel Audiard, donc, votre biographie vient de reparaître, d'être rééditée donc, chez Nouveau Monde. Merci beaucoup.
Merci à vous.
On va maintenant s'intéresser au plus grand sculpteur du XXe siècle. C'est aussi le sculpteur le plus cher du monde. Le musée Cantini à Marseille lui consacre une grande exposition. C'est Alberto Giacometti. On en parle dans un instant avec Franck Maubert.
Europe 1.
9h, 10h. C'est arrivé demain.
Bonjour, c'est Stéphane Bern. Aujourd'hui est un jour important pour environ 2200 personnes qui fêtent leurs 65 ans en France métropolitaine et en Outre-mer. À tous ceux qui ont déjà franchi le cap des 65 ans et à ceux qui célèbrent cet anniversaire, vous entrez dans la zone à risque. Ça y est, j'ai toute votre attention. Il faut savoir que plus de 90% des personnes de 65 ans et plus sont déjà porteuses du virus responsable du zona. Et le principal facteur de risque, c'est tout simplement l'âge. Alors, si vous avez 65 ans ou plus, c'est le bon moment pour en parler avec votre médecin ou votre pharmacien. N'attendez pas, faites-le dès aujourd'hui. Plus d'informations sur demain-santé.fr.
Ce message de sensibilisation vous a été présenté par le laboratoire GSK.
Dans les années 60, la France construisait un avenir plus ouvert. Révolution musicale, conquête spatiale, émancipation des femmes.
En 2025, Renault remet la liberté sur la route avec nouvelle Renault 4. Design emblématique, habitabilité légendaire, désormais 100% électrique et ultra connecté. Découvrez Renault 4 e-tech électrique, borne de recharge offerte. Portes ouvertes du 12 au 16 juin. Valeur borne 990€ hors taxe, hors installation pour forfait borne plus installation. Offre particulière du 1er au 30 juin. Conditions Renault.fr. Au quotidien, prenez les transports en commun.
TF1. Vibrez au rythme de la passion et des secrets d'un centre réputé de chant et de danse. Tout pour la lumière, votre nouvelle série quotidienne. Demain à 18h sur TF1 et en streaming sur TF1+.
Avec Mondial Piscine, chez nous, il y a un endroit pas comme les autres. Un endroit où l'on joue, où l'on rit, où l'on profite des belles journées. Où chaque moment devient un souvenir à partager. Un endroit où Mondial Piscine donne vie à nos rêves. Mondial Piscine, conçu pour durer, pensé pour partager. Rendez-vous sur le site Mondial Piscine pour trouver le professionnel le plus proche de chez vous.
Nouveau Ford Puma Gen-E, le félin passe à l'électrique. À partir de 189€ par mois, réservez votre essai sur Ford.fr. Portes ouvertes ce week-end. Ford. Puma Gen-E Standard Range LLD 37 mois 30 000 km, premier loyer 3 990€ après déduction du bonus écologique. Offre à particulier jusqu'au 30 juin si accord Brémanilise. Détails sur Ford.fr. Ouverture selon autorisation. Au quotidien, prenez les transports en commun.
9h, 10h, c'est arrivé demain.
Avec Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Alberto Giacometti, né en 1901, disparu en 1966, est considéré comme le plus grand sculpteur du XXe siècle. C'est bien simple, hein, sur les 10 sculptures les plus chères du monde, 4 sont de lui, dont les 3 premières. Chariot, vendu 101 millions de dollars en 2014. L'homme qui marche, 104 millions en 2010. Et l'homme au doigt, 141 millions en 2015. Le musée Cantini lui consacre depuis le 6 juin une grande exposition à Marseille. Et Franck Maubert... Bonjour Franck Maubert, critique d'art, romancier, vous publiez un livre personnel, Giacometti, chez Fayard. Où se situe son génie d'après vous ?
Ah, c'est une vaste question. Le génie de Giacometti, c'est d'avoir su entrer dans la vague du surréalisme, de suivre Breton, et d'avoir su en partir, et puis d'avoir créé cette fameuse sculpture « L'homme qui marche ».
Donc des sculptures filiformes. Hein,
Filiformes, oui. Mais alors, c'est l'homme qui marche, c'est la synthèse en fait de peut-être de la fameuse formule de Sartre, l'homme et ce qu'il se fait, c'est-à-dire l'existentialisme. Et au sortir de la guerre, c'était de montrer l'être humain en fait dans sa solitude. Et dans sa difficulté d'être.
La première fois que vous l'avez vu, L'homme qui marche, vous racontez que vous aviez 17 ans à la Fondation MAG.
Oui, j'étais allé avec un copain en stop pour voir cette exposition de Malraux, parce que j'étais un grand admirateur de Malraux quand j'étais plus jeune. Et il y avait cette exposition, le musée imaginaire de Malraux. Et en fait, à l'entrée, je suis tombé... vraiment nez à nez avec cet homme qui marche. Il y avait une averse, même un orage terrible, et tout le monde, les touristes sont et les visiteurs sont réfugiés à l'intérieur. Et je suis resté bavard, on peut dire, devant cette sculpture. Et je me souviens, j'étais à genoux et il y avait des Japonais qui me regardaient derrière les vitres.
Le tout premier homme qui marche, celui qu'il exposera à la galerie Matisse à New York, Giacometti l'a sculpté en 1947. Il avait 45 ans. On croit que les artistes géniaux sont géniaux tout de suite. Mais non.
Il y a
des cas. Mais quand on regarde, Van Gogh a attendu 35 ans pour peindre des chefs-d'œuvre. Gauguin, 40 ans. Ouais. Kandinsky a attendu 45 ans pour peindre sa première toile totalement abstraite. Et Pierre Soulages a 59 ans quand il peint son premier tableau entièrement noir.
C'est vrai, dans tout ça, oui, ben c'est une longue progression, c'est un long travail, et puis je pense que tous les artistes dans n'importe quelle discipline se cherchent, et puis à un moment ils trouvent leur voie. Mais dans le cas de Giacometti, je pense qu'il avait assez rapidement trouvé sa voie, parce que d'abord il était le fils d'un artiste, d'un très bon peintre, on peut dire post-impressionniste si on veut. Donc il était éduqué, quoi. Enfin, il y avait ça à la maison. Il respirait l'art en permanence. Et quand il avait, je raconte ça dans le livre, quand il avait, je crois que c'était 13-14 ans, il allait dans un collège qui était en dehors de chez lui, en pension, et pour au retour, il doit prendre plusieurs moyens de transport, et pendant un moment, il a un stand-by d'une heure, et il va dans une librairie, et là, il tombe nez à nez avec un livre de consacré à l'œuvre de Rodin, et il veut absolument acheter ce livre, et il a en poche que l'argent du retour du car qu'il doit prendre, et là, il achète ce livre, et il doit marcher dans la neige, parce que c'était aux vacances de Noël, il y avait de la neige, nous sommes en Suisse, et là, il marche dans la neige pendant plus d'une heure, avec ce gros livre sous le bras, et plus son petit bagage, et donc là, déjà, c'était l'homme qui marche, on peut dire, avec accompagné de Rodin, qui a été le premier auteur d'un homme qui marche.
Oui, c'est vrai.
Voilà.
Mais alors, que se passe-t-il tout de même à l'époque, en 1947, pour qu'après 25 ans de recherche, un monde totalement nouveau s'ouvre à Giacometti, celui de ces silhouettes filiformes, un peu perdues, vous le dites, dans un déplacement continuel, faisant face à un néant qui les menace.
Mais oui, parce que, donc on est au sortir de la guerre. Pendant la guerre, Giacometti s'était réfugié en Suisse. Son frère Diego était resté dans leur atelier à Paris où il protégeait un peu ce qui restait. Et pendant la guerre, Giacometti était réfugié dans un hôtel, l'hôtel des Rives, et il créait des toutes petites têtes dans des mini boîtes qui rentraient dans des boîtes vraiment d'allumettes, quoi. Et en fait, bon, on peut ne penser qu'aux gens qui sortaient des camps.
Des camps de concentration.
Mais oui, il me semble. Alors, beaucoup de gens lui avaient demandé, et il a toujours nié ça. Mais...
Oui, il a toujours dit non.
Oui, il a toujours nié, mais enfin bon, il habitait le 14e, il allait souvent déjeuner à Saint-Germain-des-Prés avec Sartre ou avec Camus, et il passait devant l'hôtel Lutetia où il y avait des gens qui rentraient des camps. Donc, enfin, je pense que quand même, ça a dû le travailler. Et puis, il y avait ces longues conversations avec Sartre ou avec Camus, justement. Et forcément, voilà, ça déteint.
Il est nu, hein, l'homme qui marche.
Il est nu, c'est-à-dire que c'est un homme nu, dépouillé, on va dire. Il lui reste plus rien, quoi. Hein. C'est à la fois sa déchéance et en même temps l'essentiel. C'est très curieux, oui.
Il en fera d'autres, hein, des hommes qui marchent 15 ans plus tard, à 60 ans, Alberto Giacometti. Mais bon, on voit bien que ce sont ces silhouettes filiformes qui naissent là, hein, à partir de 1947, qui aujourd'hui nous obsèdent. C'est-à-dire, quand on pense à Giacometti, c'est à elle qu'on pense.
Bien sûr.
Qu'a-t-il fait avant? Parce que, pendant 25 ans.
Avant, en 1932, il a fait déjà Une femme qui marche.
Oui, c'est vrai.
Qui est une œuvre surréaliste, parce que c'est une femme au cœur. Alors là, au corps lisse, mais qui a le torse troué, percé, perforé d'un trou, donc un trou. Et c'est en cela d'ailleurs qu'elle est vraiment surréaliste par rapport à un Maillol qui était très lisse aussi, par exemple. Mais et en fait, il a fait un premier homme qui marche en 46 en définitive, oui, je crois que c'est 46, et c'était un hommage au résistant Gabriel Péri. Le Parti communiste, alors je sais pas si c'est Aragon ou Picasso qui lui avait demandé de faire, de rendre hommage au résistant et auteur de cette fameuse formule Les lendemains qui chantent, Gabriel Péri, et en fait il fait un peu.
Fusillé par les Allemands, hein,
c'est ça, oui, fusillé par les Allemands avant des Siennes d'Orve, etc. Et donc. Il a fait un homme qui marche qui fait 46 cm de haut. Et le premier homme qui marche en fait 60 ou 63, je crois.
On fait une pause, Franck Maubert. On se retrouve tout de suite après. On continue de parler d'Alberto Giacometti.
Carrefour. Quand vous me dites « L'Alef est une bière d'abbaye authentique et pleine de caractère, blonde, rubis, brune, ambrée », je pourrais en parler pendant des heures. Eh bien, je vous réponds qu'il y a 50% de remise immédiate sur le deuxième produit Lef acheté. Et c'est valable sur tout Lef. Alors rendez-vous jusqu'au 22 juin chez Carrefour, Carrefour Market et leur Drive. Carrefour. Selon disponibilité en magasin, panachage possible, la remise s'applique sur le moins cher. Détails sur carrefour.fr. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool.
Ça a glissé. La voiture se retrouve dans le fossé. Quand Stéphane a eu son accident, Maxime, son agent mutuel de Poitiers, était là pour lui.
Je lui dis, écoute, t'inquiète pas, on va gérer ça ensemble. T'es pas tout seul, en fait.
Et là, à partir de là, déjà, la pression commence à redescendre, quoi.
C'est un père de famille, il a sa femme, sa fille sur le bord de la route. On se met à leur place parce qu'on les connaît et qu'on les voit plusieurs fois par an. Donc, c'est à partir du moment où on les connaît le mieux qu'on les assure le mieux, quoi.
Et c'est ça le gros point fort, en fait. Je suis une personne, je suis pas un numéro de contrat.
Mutuel de Poitiers Assurance, votre assureur vous connaît. Et pour vous, ça change tout.
Parfois grand, c'est vaste. Parce que parfois grand, c'est énorme. Et parfois énorme, c'est immense. Mais parfois grand, c'est juste grand. Et parfois, c'est juste ce qu'il vous faut. Nouveau Dacia Bigster, grand coffre, grande autonomie moteur hybride et petit prix. Dacia Bigster, à partir de 24 990 euros, est maintenant disponible en motorisation GPL. À découvrir durant les portes ouvertes du 12 au 16 juin.
Prix conseillé pour l'achat d'un Dacia Bigster Essential Mild Hybrid 140, 9 hors option selon tarif du 3 juin 2025. Conditions sur Dacia.fr. Pensez à covoiturer.
Lidl, réélu encore et encore, meilleure chaîne de magasins de l'année dans la catégorie supermarché.
Allô patron ?
Du croustillant ?
Ah oui, en ce moment, les 4 baguettes croustilles dont une offerte sont à 2,85€.
72 centimes la baguette ! C'est une bouchée de pain ?
Bah on est mal.
Lidl est vraiment le moins cher et vous le prouve sur lidlestmoinschers.fr. 250 grammes, 2,85€ le kilo pour 4 baguettes, 3,80€ le kilo pour une baguette. Cuit sur place dans les supermarchés disposant d'un point chaud. Offre valable jusqu'au 18 juin. Plus d'informations sur lidl.fr. Pour votre santé, évitez de grignoter.
9h, 10h, c'est arrivé demain.
Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Nous sommes avec Franck Maubert, critique d'art et romancier, qui publie Giacometti chez Fayard. À 36 ans, racontez-vous, il a été renversé par une voiture, il a eu le pied broyé, il en a gardé une légère claudication. Est-ce que ça a eu une influence, à votre avis, sur L'homme qui marche ?
Je ne sais pas. Oui, c'est-à-dire qu'il a, on sait qu'il avait, il donnait beaucoup d'importance au socle de ses sculptures et il faisait des gros pieds vraiment comme ancrés dans le sol, comme des, presque comme des sabots un peu dépenaillés, quoi. Mais, alors peut-être, oui. Alors, c'est là où Sartre avait eu cette formule et à la suite de laquelle ils sont brouillés d'ailleurs, parce que Sartre avait dit enfin il lui arrive quelque chose, parce qu'il ne parlait que de ça.
Oui, c'était pas très gentil, effectivement.
Non, ça figure dans les mots, d'ailleurs, de Sartre.
Il sortait, Alberto Giacometti, de chez Isabelle Raustan, qui était sa maîtresse et son modèle. Elle a été la maîtresse de Balthus, de Francis Bacon, de l'écrivain Georges Bataille. C'est toujours fascinant. D'André Derain. C'est toujours fascinant, ces femmes qui ont connu tant
de génies, enfin de, oui. Vraiment de grands artistes. Mais elle-même, c'est une très très bonne
peintre,
vraiment, qui mériterait une place plus importante que celle qu'on lui donne.
Mais qui était modèle au départ.
Était modèle, absolument. Oui, oui. Et Picasso était fasciné par son visage également, comme Giacometti. Giacometti voyait dans son visage, parce qu'elle avait des pommettes très très hautes, il voyait comme une déesse égyptienne, en fait.
Il était totalement désintéressé, Giacometti, j'ai dit, hein, c'est aujourd'hui le sculpteur le plus cher du monde. Hein. Trois de ses œuvres sont les trois sculptures les plus chères payées dans toute l'histoire. En tout cas, non, pas dans toute l'histoire, parce qu'à mon avis, il y en a eu des bien plus chers autrefois. Mais aujourd'hui, ce sont les trois plus chers. Je ne sais pas s'il en a profité à une époque. Est-ce que véritablement, il s'est mis à gagner de l'argent ?
Oui,
parce
il a
dit qu'il était totalement désintéressé.
Il était désintéressé, il avait beaucoup d'argent. Il est planqué sous son sommier de son atelier rue Hippolyte Mindron, et quand il a eu cette histoire avec Caroline, donc son dernier modèle...
On va en parler tout de suite.
Eh bien, son amante, qui était quand même une prostituée, et donc elle était liée au milieu, et là, un jour, il a vu débarquer des gangsters et qui lui ont demandé tout son pognon, et il a dit « Prenez tout, tout est sous le sommier de son atelier ». Ils ont effectivement tout pris, ils ont renversé une sculpture dans son atelier au passage, et ils sont cassés.
Voilà. Un atelier qui était minuscule, hein, et il y restait toute sa vie, même après avoir connu le succès.
Absolument, mais en fait, il a eu beaucoup de moyens après-guerre, en fait, parce qu'il avait pour marchand Pierre Matisse, le fils d'Henri.
Donc avec sa galerie new-yorkaise,
voilà, c'est ça, à
c'est
New York,
ce qu'il a lancé, en fait.
Avec Aimé Mag, et qui partageait les tirages en bronze. Et là, l'exposition à New York a eu tout de suite beaucoup de succès.
Celle où figurait le premier homme qui marche, c'est aussi l'homme au doigt, qui est aujourd'hui la sculpture la plus chère du monde. Alors, vous racontez dans votre livre l'histoire de son dernier modèle, Caroline, que vous avez retrouvée. C'est une prostituée, c'était une prostituée, pardonnez-moi, qu'il avait rencontrée en 1958.
Hein. Oui, et il l'avait rencontrée dans un de ses bars dit montant de la rue Bréa à Montparnasse, qu'il fréquentait parce qu'il était fasciné par les prostituées. D'ailleurs, il est allé même à la fin de sa vie au Sphinx, à la fermeture du Sphinx. Je ne sais plus avec quel écrivain, d'ailleurs, ils sont allés tous les deux.
Vous parlez de la maison de tolérance.
Oui, pardon. Et donc, ça a été un coup de foudre parce que dans cet endroit qui s'appelait chez... Je ne sais plus le nom du bar, peu importe, mais et donc on le connaissait bien et on lui a dit, ben il y a une nouvelle et c'était, on lui présente Caroline et c'était un coup de foudre réciproque et ils ont marché toute la nuit dans Paris et elle était fascinée parce que cette femme me disait, quand je l'ai rencontrée donc à la fin de sa vie en 2011 je crois, je l'ai rencontrée à Nice, elle m'a raconté qu'elle était fascinée par les écrivains. Et d'ailleurs moi quand je l'ai appelée, par les écrivains et les artistes en général, quand je l'ai appelée, je lui ai dit je prépare un livre sur Giacometti, elle m'a tout de suite répondu oui je veux bien vous voir.
Mais il y a une grande tradition dans les arts plastiques, chez les peintres et chez les sculpteurs d'ailleurs, en tout cas au 19e et au début du 20e siècle, oui. Que d'entretenir des relations très étroites avec les prostituées qui étaient souvent, oui, leur modèle,
oui,
leur compagne, leur muse.
Oui, on connaît toute l'histoire et la série Elle au pluriel de Toulouse-Lautrec, qui était fasciné, qui vivait avec elle même. Voilà, il vivait avec des prostituées. Quoi, il était...
Mais quasiment tous ont été à leur contact à un moment. Qu'est-ce qu'elle a inspiré véritablement à Giacometti ? Il y a un tableau,
Il y en a plusieurs, La Robe Rouge, etc. Et puis il y a même une sculpture.
Était aussi peintre et dessinateur. Et un de ses dessins les plus célèbres, en tout cas pour moi, ça représente Caroline.
Tout à fait. D'ailleurs, pour moi, Giacometti est un très grand dessinateur. Avant même d'être un immense sculpteur, comme on sait, et un grand peintre également, je pense que ses dessins sont plus importants. D'ailleurs, c'est ce que lui-même disait.
Oui, il se prenait pour un grand dessinateur plus que pour un grand sculpteur.
Mais je pense qu'il a raison. Comme Matisse est un très grand, un grand coloriste, mais c'est avant tout un grand dessinateur.
Est-ce que vous avez vu l'exposition du musée Cantini ?
Non, pas encore, je vais y aller.
C'est une très grande exposition sur Giacometti, qui durera tout l'été Marseille. Giacometti, l'ensemble de son œuvre, il ne faudrait pas croire qu'il n'y a que l'homme qui marche.
C'est une œuvre immense. Il y a toute cette période surréaliste, il y a les petites œuvres, des œuvres plus mineures, on va dire, mais de ses débuts qui sont... plus traditionnel, mais c'était un grand paysagiste. Alors, on n'imagine pas ça. Si on connaît que l'homme qui marche, évidemment, ou tous ces séries de portraits, on se doute pas que, voilà. Mais, ce qui est drôle, si on revient à l'histoire de Caroline, c'est que, il était marié, quand même, Giacometti, avec Annette. Et Annette, elle était dans ce minuscule atelier rue Hippolyte Mindron. Elle était au premier étage. Et il recevait Caroline, en bas. Et il lui a trouvé un amant en la personne de Isaku Yanaihara, qui était le traducteur de L'étranger de Camus, entre autres, qui était un prof de philo, à Osaka. Et qui l'a quasiment obligé à rester à Paris alors qu'il avait une femme des enfants et son job de professeur de philosophie à Osaka qui l'attendait. Il lui dit non, il faut rester, j'ai besoin de travailler encore votre portrait.
Et c'était juste pour qu'il soit l'amant de sa femme, Annette, pendant que lui...
Il y a une correspondance que j'ai eu l'occasion de lire dans les archives de la Fondation, Giacometti, qui est fabuleuse et qui mériterait vraiment de paraître, parce que c'est extraordinaire, quoi. Entre Annette et ce professeur de philosophie, c'est magnifique. Et qui est l'auteur de deux livres, d'ailleurs, qui sont plutôt des journaux qui ont été publiés aux éditions Alia, qui sont vraiment, je recommande. Voilà.
Merci, Franck Maubert. Giacometti, c'est paru chez Fayard.
Bien, merci.
Europe 1.
C'est arrivé demain, est arrivé à son terme. On se retrouve samedi prochain à 9h pour la suite. Passez une excellente semaine sur Europe 1. Dans un instant, ce sera le grand rendez-vous Europe 1, CNews, Les Échos, animé par Pierre de Villeneuve. Bonjour Pierre.
Bonjour Frédéric Taddeï.
Qui est votre invité ?
Mon invité est le président des centristes, Hervé Morin.
Merci Pierre, bonne émission.
Toute la la semaine sur Europe 1, découvrez comment Acadomia accompagne les jeunes sportifs pour les aider à concilier réussite sportive et réussite scolaire. Et en attendant, découvrez-en plus sur acadomia.fr.
Les passagers destination hybride sont priés de se rendre dans leur concession Suzuki la plus proche pour profiter des 5 modèles et 3 technologies hybrides Suzuki à partir de 159€ par mois. Destination hybride, embarquement immédiat. Profitez des portes ouvertes ce week-end.
Prix pour Swift Hybrid Avantage, location longue durée 37 mois, 30 000 km, premier loyer de 4 000€. Entretien inclus, valable jusqu'au 30 juin 2025. Si accord Kofi Kabaï. Détails sur Suzuki.fr.
Au quotidien, prenez les transports en commun.
Aujourd'hui, dans le journal du dimanche, Bruno Retailleau répond après le meurtre barbare de Mélanie à nos gens et évoque la faillite française en matière d'autorité et d'éducation depuis mai 68. Entretien exclusif et sans tabou avec le ministre de l'Intérieur. Chaque dimanche, retrouvez le JDD avec le JD News et le JD Mag chez votre marchand de presse à seulement 2,90€.
De prime abord, personne ne déprime à l'idée de recevoir une prime. En prime, une prime, c'est une bonne nouvelle.
En ce moment, chez Nissan, la très bonne nouvelle, c'est la prime à l'hybride jusqu'à 7 000€. Oui, 7 000€. Pendant les jours hybrides Nissan, ne manquez pas cette prime exceptionnelle sur tous les crossovers hybrides Nissan Juke, Qashqai et X-Trail. Rendez-vous vite en concession Nissan pour en profiter.
Nissan.
Remis jusqu'à 4 000€ sur Juke Hybrid, 5 000€ sur Qashqai et 7 000€ sur X-Trail 9, identifié en stock jusqu'au 30 juin par rapport au prix au 1er mars. Détail Nissan.fr. Au quotidien, prenez les transports en commun.
Leclerc, bonjour.
Bonjour. Mon dictionnaire me dit concombre, légume apprécié pour sa fraîcheur.
Oui.
En fait, c'est concombre français, légume apprécié pour sa fraîcheur.
Et pour son prix, car du 13 au 15 juin, les concombres français sont à 1,35€ les deux. Et chaque semaine, profitez en plus de 10% de tickets Leclerc sur tous les fruits et légumes à activer dans votre appli Mon Leclerc. Chez Leclerc, le goût du frais, ça se défend tous les jours. Soit 68 centimes la pièce du lot indivisible, catégorie 1, calibre 300-400 grammes, modalité magasin et drive participant sur www.e.leclerc.
Voyage en Renault Austral Full Hybrid E-Tech. 1100 km de paysage, un seul plein et zéro recharge. Le moteur s'adapte entre thermique ou électrique pour 1100 souvenirs. Nouveau Renault Austral Full Hybrid E-Tech dès 400€ par mois. 2 mois de loyer offert. Portes ouvertes du 12 au 16 juin. Renault, numéro 1 de l'hybride en France.
Austral Evolution Full Hybrid 200€ option. LLD 37 mois, 30 000 km. Premier loyer 5 000€, troisième et quatrième loyer offert. SIA Cordiaque. Offre à particulier du 12 au 16 juin.